Bien, chers collègues, je vous propose de commencer. Pardon pour ce retard qui est quand même un peu important. J'espère que la technique marche, mais ça semble être le cas et que nos débats pourront être enregistrés. En ouvrant cette séance, nous ne nous sommes pas vus en conseil municipal depuis début juillet, je crois. Et donc, je voudrais renouveler à notre collègue Evelyne Fournier, qui a perdu sa maman il y a maintenant, c'était durant l'été, c'était à quel moment, Evelyne? Le 11 août, voilà. Donc, je voudrais te renouveler au nom de tous les collègues, nos condoléances, toute notre amitié et notre soutien. Voilà, alors nous avons un conseil municipal relativement léger ce soir quant au nombre des rapports qui vous seront présentés, mais je voudrais peut-être aborder en ouvrant cette séance quelques sujets à titre d'information. D'abord, je voudrais vous rappeler que la semaine prochaine, samedi, nous aurons le séminaire finance, comme nous en avons eu un il y a 2 ans. Donc ce séminaire finance nous permettra de faire le point de la situation. La semaine suivante, voilà, le 4 novembre. On prendra connaissance des ratios habituels, des indicateurs, voir un petit peu où nous en sommes, et puis nous essaierons de réexaminer aussi ensemble le programme pluriannuel d'investissement, voir un petit peu les inflexions éventuellement qu'il faudrait apporter ou pas, et bref, un examen général de la situation financière de la commune et une réflexion en commun. Je crois que c'était le but de ce séminaire finance qui nous permettent de rectifier, le cas échéant, notre feuille de route d'ici la fin du mandat. Mais je vous rassure tout de suite, je crois que les choses ne se présentent pas mal, même si, en effet, toutes les collectivités, au regard des annonces gouvernementales, des annonces qui sont faites en matière de soutien aux collectivités locales, ne manquent pas d'interroger. Voilà, donc même si notre commune n'est pas parmi celles qui s'éprouvent des difficultés particulières, il n'empêche que quand on prend des décisions relatives à la suppression progressive de 80% de la taxe d'habitation ou d'autres mesures, ça peut ne pas être sans, ça peut avoir des conséquences, bien sûr, pour toutes les collectivités. Donc il faut essayer de se projeter un petit peu et de voir tout ça. Et d'ailleurs, à cette occasion, on rappellera, j'avais les chiffres, mais l'adjoint aux finances les a bien sûr, voir de combien pèse le produit de la taxe d'habitation par rapport à notre produit fiscal, par rapport à nos recettes en général, voir un petit peu le poids que ça représente. Alors je sais que le gouvernement, c'est évidemment engagé à restituer aux communes le produit fiscal, mais on sait en général ce qui se passe dans ce cas-là, c'est-à-dire que la première année, oui, on vous compense intégralement. C'était le cas au niveau du département, par exemple pour le RSA. Quoi. En 2008, il y avait une intégration intégrale et 10 ans après ou 9 ans après, c'est compensé à peine un peu plus de la moitié. Quoi. Voilà, donc c'est ça qu'il faut aussi intégrer. Bon, bref, on ne va pas faire de procès inutile, mais un examen, encore une fois, de la situation générale de la commune est toujours intéressant. Autre mesure qui aura un impact sur les collectivités et qui en aura pour nous également, dans la mesure où nous avons un projet précis, enfin c'est un projet de lotissement porté par un investisseur à l'entrée du village pour une 50aine d'habitations, dont un petit peu plus de la moitié en logement conventionné. Et c'est l'opérateur Agen Habitat qui doit produire ces logements conventionnés. L'investisseur, le lotisseur et Agen Habitat se sont rencontrés, ils ont trouvé un accord. J'avais, il y a quelques semaines, pris des nouvelles de tout ça et les choses étaient sur le point de se concrétiser devant nos terres. Et puis, j'ai reçu un courrier tout récemment, là, ces derniers jours, disant un courrier du président d'Agen Habitat au sujet de ce projet, qui nous dit, je vous passe la présentation générale du projet, mais il s'avère que le contexte économique de nos organismes est en train d'évoluer d'une manière très défavorable, dans la mesure où les décisions qui vont être prises sont de nature à déséquilibrer totalement nos opérations neuves, puisqu'une baisse des recettes de 10 à 12% consécutive à une baisse des loyers accompagnant la baisse de l'APL, hein, c'est de ça qu'on parle, voyez, serait à prévoir dès 2018. N'ayant pas à ce jour d'informations suffisamment précises, je me vois dans l'obligation de suspendre provisoirement ce projet. Croyez bien que je le regrette, etc. Bon, c'est une suspension, mais imaginez bien que c'est multiplié, ça, par des milliers d'opérations sur tout le pays, quoi. Voilà. Bon, bref, encore une fois, on n'est pas là pour critiquer quoi que ce soit. Il faut voir après comment ça se traduira. Mais n'empêche qu'il y a un frein, là, qui est mis à un certain nombre d'opérations, qui sont des opérations utiles d'abord pour ceux qui cherchent un logement, en l'occurrence, et puis après aussi pour les collectivités qui essaient de faire avancer les choses en termes de logement dans leur commune. Voilà. Ceci étant, je vous fais remarquer, chers collègues, parce que ça a mis un petit peu de temps, mais que nous avons le portrait du nouveau président de la République. Voilà. S'il a fallu un petit peu de temps, c'était chez l'encadreur, etc. Bon, voilà.
Le temps de se mettre en marche.
Se mettre en marche, voilà. Bien, autre information concernant la fibre optique. La fibre optique, vous savez que ça fait l'objet d'un plan de déploiement au niveau national, le plan très haut débit, que ce plan très haut débit décliné au niveau national est également décliné au niveau local, un petit peu partout, et que s'agissant de notre département, vous avez deux types de zones. Vous avez les communes, les trois principales communes du département, que sont Agen, Villeneuve et Marmande, mais également les 11 communes qui entourent Agen, qui verront le déploiement de la fibre optique assuré par l'opérateur historique Orange. C'est Orange qui a été chargé de ça. Partout ailleurs, c'est le syndicat Lot-et-Garonne numérique, avec plusieurs intervenants, qui sera chargé de ça. Mais l'objectif national, c'est qu'en 2022, tout le territoire national soit couvert en termes de fibre optique et d'accès, par conséquent, au très haut débit, c'est-à-dire plus de 30 gigaoctets de débit, hein, quelque chose d'important. Pour notre commune, nous sommes allés avec Daniel Lunardi, nous sommes allés il y a une quinzaine de jours chez Orange, qui faisait pour Boé et pour Bonencontre une première présentation sur ce déploiement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? D'ailleurs, j'en parle dans le prochain billet du mois. Pour ce qui nous concerne, les opérations de déploiement vont commencer en 2018. Avec l'installation d'armoires de rue, de 4 armoires de rue sur 13 au total, pour ce déploiement sur la commune de Boé, il y aura 13 armoires qui seront installées dans les différents secteurs, dans les différents quartiers de Boé. Et ces armoires de rue, elles sont ensuite prolongées vers toutes les habitations. Là, il s'agit de la fibre optique jusqu'à l'usager, hein, jusqu'à l'abonné. Donc il y a ces armoires, et puis ensuite la fibre optique est tirée jusque vers les entrées d'habitation, et puis ça rentre dans les habitations si les particuliers ou les entreprises souscrivent les abonnements prévus pour cela. Donc ça commence en 2018, les autres armoires seront déployées en 2019. Ça veut dire que les premières installations, je parle sous le contrôle de Daniel, je crois que les premières installations chez les particuliers pourrait intervenir fin 2018, et que la majorité des autres interviendront fin 2019, début 2020. Voilà, donc c'est quand même une affaire qui se précise et qui va permettre à nos concitoyens de disposer du très haut débit. Où en est la commune aujourd'hui ? C'est une commune qui est plutôt correctement desservie. Nous avons, je parle de mémoire, mais nous avons des débits supérieurs à 8 gigas, je crois, pour 60% de la population. Et il y a relativement peu, mais il y a quand même des secteurs qui sont mal desservis, mais relativement peu sur la commune de Boué. Comme nous étions avec nos collègues de Bon-Encontre à cette réunion, on a pu constater en effet que Bon-Encontre, qui a des problèmes de, voilà, de dénivelé, de hauteur, etc., a des problèmes beaucoup plus sérieux en la matière. Bon, bref, je crois que c'est une bonne chose que cette desserte en fibre optique. Ceci étant, les gens d'Orange faisaient le constat qu'à Agen, où ils ont commencé à installer de l'eau, je crois, de l'eau sur quatre à Agen, et au passage d'Agen aussi, où ils ont commencé dès cette année, les gens ne se précipitent pas pour le moment, ne se précipitent pas, semble-t-il, pour souscrire à la fibre optique. Voilà, donc on verra. Oui, ça change d'abonnement. Alors après, tout ça, c'est l'affaire d'Orange et des autres opérateurs, parce que vous avez bien compris que si Orange déploie la fibre optique, ils sont tenus de mettre ce réseau fibre optique à la disposition des autres opérateurs. Donc tous les opérateurs, Free, etc., feront des propositions commerciales là-dessus. Pour ce qui concerne Orange, je parle encore sous le contrôle de Daniel, ils ont une opération promotionnelle un petit peu pendant un an, semble-t-il, ils proposent l'abonnement à la fibre optique au même tarif que l'abonnement Livebox que vous avez aujourd'hui à la DSL, quoi, hein, voilà. Mais ça, c'est une année. Après, parce que ça devient. Oui, oui, j'imagine, ils vont se concurrencer là-dessus. En tout cas, bon, ce déploiement est une bonne chose. Alors, ce que l'on fera au fur et à mesure que nous aurons des informations et avec les gens d'Orange, sans doute, nous ferons peut-être une réunion publique ou plusieurs, si nécessaire, au gré de l'avancement de tout ça, de façon que nos concitoyens, nos administrés, puissent avoir les informations utiles pour ça. Dernière information, les effectifs, puisqu'on est, on arrive aux vacances de la Toussaint, mais voir les effectifs scolaires qui ont évolué depuis la rentrée. Nous étions à 518 enfants scolarisés à Boué à la rentrée. Nous sommes maintenant à 528. Bon, après la rentrée, il y a toujours des inscriptions supplémentaires. Voilà, 528 élèves inscrits. Pour votre information, ça se répartit de la façon suivante. En secteur rural, l'école Didier Lapeyre de Saint-Pierre compte 64 élèves. L'école René Musas, 38 élèves. Pour ça, vous voyez, on parlait tout à l'heure du lotissement en prévision. Et il est certain que là, c'est un renouvellement aussi de génération. Et pour notre école de René Musas, hein, qui est un peu basse en effectif, là, bon, ben voilà, ce sera l'occasion de soutenir cette école. L'école maternelle Marie-Louise Chrétien à Boécité compte 140 élèves. Et l'école élémentaire Jean Moulin, 286. Tout ça fait 528. Voilà, vous avez, chers collègues, également l'invitation pour le salon peinture avec le vernissage qui aura lieu mercredi. Peinture et sculpture, nous allons découvrir Dominique Urso, Bernard Giraud, Fritz Gérald Muscadin. Et voilà, ben on découvrira ça avec plaisir. Vous avez aussi dans vos... Voilà, une autre invitation pour... Pour nos aînés, c'est la troupe Pama Floma qui offre, Michel, je parle sous ton contrôle, c'était déjà le cas l'an dernier, il y a 2 ans peut-être aussi, il y a deux ans, un concert pour les Boétiennes de plus de 65 ans. Ça aura lieu le dimanche 12 novembre à 15h à l'espace Mitterrand. Merci à Pama Floma. Et c'est gratuit, oui, c'est offert. Hein, je pense que les moins de 65 ans seront peut-être mis aussi, hein, si, par solidarité intergénérationnelle. Bien, et puis vous avez un ouvrage, un petit travail qui a été réalisé par une stagiaire de notre service Espace Vert que nous avons reçue, je ne sais plus pendant combien, quelle durée, 2 mois. Elle s'appelle Clarisse Leproux. Elle a fait un excellent travail de recensement et de présentation de végétaux, de plantes, etc., sur l'observation qu'elle a pu faire et le travail qu'elle a réalisé. Voilà, c'est un inventaire qui vaut le coup d'être parcouru avec des photos et des indications utiles pour chacune de ces fleurs. Voilà.
Hein? Qui vient nourrir aussi le projet.
Qui vient nourrir, oui, en effet. Tu veux dire quelques mots, Séverine, là-dessus, sur ce travail, qui, dans le cadre qui s'inscrit évidemment dans le projet Garonne d'une façon générale. Je ne sais pas trop de quelle façon, mais tu peux nous le dire, en tout cas. C'est...
Oui, effectivement, on a travaillé avec Stéphane.
Micro.
Mets le micro.
Elle a travaillé avec Stéphane sur l'identification, le recensement de toutes les variétés des espèces qu'elle a pu identifier sur la commune, mais toute la commune, pas seulement aux abords de
pas seulement aux abords de la zone de Garonne.
Toute la commune, avec après l'identification des périodes de plantation, de floraison, etc. Donc c'est un beau travail qu'elle a fait en parallèle de ses activités de tous les jours, puisqu'elle travaillait aussi auprès des enfants et elle travaillait avec les espaces verts. Donc, elle était en IUT génie biologique et environnement. Elle venait de Nantes.
D'accord. Très bien. Il faut vraiment... Il me ferait penser, Bruno, de faire un petit mot de remerciement, peut-être, voilà, pour la remercier. À noter qu'il y a aussi une autre stagiaire qui a bien travaillé ici, qui est restée un petit peu plus longtemps, Marianne. Marianne, je cherche son nom, pardon.
Delors.
Marianne, ouais. Delors, voilà. Qui a fait elle aussi un travail, tu nous as dit un mot, Séverine ?
Oui, alors là, le travail est inachevé, mais bon, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc Marianne a travaillé sur la mise en place d'un OPP, donc un observatoire photographique des paysages, qui là, par contre, est complètement relié au projet Maison de Garonne, puisque c'était une des conditions, on va dire, pour le financement par le FEDER, par l'Europe. Donc, il y a déjà eu un comité de pilotage à ce sujet. Donc là, elle a travaillé avec des spécialistes, notamment Philippe Valette, qui est enseignant-chercheur à Toulouse, spécialiste donc de la chose, chercheur en géographie. Donc, elle a identifié sur la commune tous les points qui seraient intéressants d'observer, à titre alors sur l'environnement et le côté nature, mais aussi sur notamment l'urbanisme, pour peut-être prendre des photos avant tous les changements qu'il va y avoir, et photographier après régulièrement pour voir l'évolution de tout ce qui se passe sur la commune. Voilà. Et venir un petit peu conclure sur est-ce que l'évolution est favorable, défavorable, et analyser un petit peu tous ces changements-là. Donc ce n'est pas complètement fini, il faut qu'on termine ça avec Bruno. Il faut faire un autre comité de pilotage pour valider tous les points de vue, toutes les observations. Puis après, il faudra essayer de créer un itinéraire et voir comment on fait vivre ça. Est-ce que c'est avec une asso, est-ce que c'est avec un club photo, voilà. À définir.
Mais peut-être, en fait, c'est une suggestion que je vous fais, de réfléchir aussi à la façon dont ce type de travaux, tant ceux de Clarisse que de Marianne, peuvent, je ne sais pas, peut-être, je pensais à la médiathèque ou comme ça, des fois il y a des expos, des choses comme ça, tu vois, faire un petit échange là-dessus, présenter, voilà, ça peut intéresser les Boissiers, on peut le faire savoir dans le billet du mois, je ne sais pas.
Il est sur le blog Maison de Garonne.
Oui, ben voilà. Bon, peut-être qu'on pourrait le faire pour le public boissien, quoi, hein, qui peut être intéressé par ça.
Après, c'est, on n'a pas l'impression, mais on s'est rendu avec Bruno dans plusieurs réunions. Et visiblement, on est assez précurseurs, en tout cas en tant que commune, pour porter ce genre de choses. Et même en étant allé à 2 heures de route d'ici, quand on est arrivé, Boé était connu, le projet était connu. Donc c'est a priori.
Oui, mais c'est tout ça, c'est des choses qui sont dernièrement au département. La semaine dernière, par exemple, il y avait une présentation dans le cadre d'une commission. Et on parle, un directeur là, du département parle d'une fête de la biodiversité qui va être portée au niveau départemental et tout ça. Et donc, moi, je rappelle qu'à Boé, il y a une fête du miel et de la biodiversité. Et le directeur en question me dit, oui, tout à fait, monsieur le maire, c'est On va d'ailleurs se rapprocher, on se rapproche d'ailleurs de Boé, pour les services de Boé, etc., pour bâtir cette chose-là. Bon, voilà. C'est pas pour dire ça, mais je pense que ce type de travail peut intéresser dans les expos qu'on organise ou des choses comme ça, ou un petit échange, tout ça. Il y aura sûrement des Boétiens qui seront intéressés et qui pourront d'ailleurs adhérer après au projet Garonne de façon plus générale quand il s'agira d'ouvrir un peu les choses. Quoi. Vas-y.
L'observatoire, à la limite, il n'est pas pour nous dans l'immédiat, mais il est pour nos enfants et petits-enfants, voir justement tout l'historique et qu'il y ait une trace de tout
ça. On travaille pour l'avenir et la postérité, c'est ça,
hein? Postérité, je ne sais pas.
Très bien. Dernière chose, vous avez Fatima qui a réalisé ça, j'imagine. Mais c'est très précieux parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est toujours en train de chercher des mots de passe et tout ça pour accéder. Là, voilà, il y a un petit digest qui sera sans doute très utile. Bien, pardon, j'étais un petit peu long dans cette introduction, mais je vous propose maintenant d'abord de vous dire les pouvoirs que nous avons reçus. Aline Truyer a donné pouvoir à Michel Journet-Lérisson. Jérôme Roux a donné pouvoir à Chantal Ramon. Pascal Luguet a donné pouvoir à Daniel Pantex. Catherine Mandex a donné pouvoir à Colette Lassor. Odile Favard a donné pouvoir à Jean-Claude Géraud. Aïssa Kerchach a donné pouvoir à Françoise Lebeau. Jean-Michel Lafouente a donné pouvoir à Daniel Lunardi. J'ai reçu un message un peu taquin de Jean-Michel Lafouente qui me dit « Désolé, vraiment désolé, je viens de manquer l'avion, donc m'excuse-moi auprès des collègues, etc. » Alors que son absence était bien sûr prévue.
J'ai pas raté la piscine.
Voilà. Et Monique Fornazari a donné pouvoir à Annie Akari. Et je crois que la secrétaire de séance qui vous est proposée, c'est Chantal Ramon, si elle accepte.
Voilà. Il faut excuser.
Il faut excuser Syriac. Voilà, les excuses de Syriac, qui n'a pas pu donner de pouvoir. Voilà, donc je vous propose... Oui, l'approbation de juillet, c'est bon. Alors, on l'a reçu sous quelle forme, ça? Oui, c'est le compte rendu succinct, là, hein, qui vous a été donné. Celui qui a été rebâti à la suite du défaut d'enregistrement, hein, c'est ça?
C'est ça. Ouais.
Bien. Avez-vous des observations sur ce... Je ne l'ai pas lu, hein, je ne sais pas. Vous avez des choses à ajouter ou pas? Mais Bruno s'était rapproché, je crois, vous avez demandé à chacun de faire les propositions.
Oui,
très bien. Pas d'observation. Je peux considérer que c'est adopté, Henri.
Je parle au nom de... J'ai un peu mal, donc je vais aller doucement. Je parle au nom de Jérôme Roux, qui, s'il avait été présent, vous aurait exprimé son mécontentement en disant qu'effectivement, tout matériel nouveau qui n'est pas forcément bien testé peut tomber en panne ou il peut y avoir une mauvaise appréciation du réglage. Mais Jérôme Roux se demandait à quoi servaient les personnels qui étaient présents et qui étaient peut-être en charge de prendre des notes, et notamment le secrétaire de séance. Voilà.
Alors, le secrétaire de séance, évidemment, on peut demander à ce secrétaire de séance, et on peut commencer par Chantal Armand aujourd'hui, mais...
C'est bien pour ça que j'en fais état.
Non, mais c'est vrai que les secrétaires de séance, ils ont pour tâche de reprendre, de faire des observations sur ce qui a été pris. Mais maintenant, c'est sonore. Voilà. Le problème, c'est que ça a lâché sans qu'on s'en aperçoive. Sinon, évidemment, si on avait eu les uns ou les autres le sentiment que la technique ne suivait pas, on aurait pris des notes qui permettent de faire quelque chose de plus complet. Là, j'espère que ça enregistre. Hein? Comment ?
Tout le monde n'a pas répondu au mail que vous envoyez.
Alors, mais ce qu'on a fait, en effet, le secrétaire général, le directeur de service, a interrogé chacun de vous sur la base d'une première proposition et en disant, si vous souhaitez ajouter des choses, dites-le. Bon, ça s'adressait en particulier à ceux qui ont pris la parole, quoi. Hein, si tout n'était sans doute pas reproduit, mais si vous teniez à ce que l'observation que vous aviez faite soit donnée, donc je pense que Jérôme, s'il est intervenu, il a été interrogé là-dessus aussi. Bon.
Jérôme, je reprends ce que je viens de dire, Jérôme a décidé de fermer le rideau et de dire à quoi sert le directeur général des services, à quoi sert l'adjoint au directeur général des services, à quoi sert le secrétaire de séance.
Ah, bon, c'est un peu...
Alors, c'est un peu effectivement excessif, mais malgré tout...
Mais alors, s'il faut, alors qu'on enregistre ça, enregistrer aussi les propos... je veux bien l'envisager, ça, mais bon, est-ce que ça se justifie? Ce qui est noté à chaque fois, c'est évidemment les votes. Là, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus, parce que des fois, l'enregistrement est imprécis. Sauf si...
Non, mais pour clore le sujet, Christian, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que moi, j'ai le sentiment que, comme c'est un matériel neuf, il n'a pas été testé ou il a été mal testé. Il a été mal appréhendé au niveau réglage, point final. Après, ça peut arriver. Mais avec l'ancien matériel, ça n'est pas arrivé. Donc, on peut se poser la question.
Et c'est un matériel neuf depuis quand? Ah, depuis il juillet. A été c'était, mis... c'était la première fois.
Voilà, exactement.
Le changement d'appareil, juste.
D'accord. Bon. Écoutez, hein, il a été testé. Là, cette fois-ci, je pense que ça va fonctionner et on va essayer d'en accepter l'augure. Voilà.